4. Déposition de Madame Arlène Stanhope. 12 juillet, 13h. Interrogée par l'inspecteur Ralph Anderson. Stanhope.
Il y en a pour longtemps, inspecteur?
Inspecteur Anderson. Non, ce ne sera pas long. Racontez-moi simplement ce que vous avez vu dans l'après-midi du mardi 10 juillet. Stanhope.
Très bien. Je sortais de chez Gérald, l'épicerie fine. Je fais mes courses là-bas, tous les mardis. C'est plus cher, mais je ne vais plus au Kroger depuis que je ne conduis plus. J'ai rendu mon permis un an après la mort de mon mari car je n'avais plus confiance dans mes réflexes. J'ai eu quelques accidents, de la tôle froissée, mais ça m'a suffi. Gérald est à 2 rues seulement de l'appartement où je vis depuis que j'ai vendu la maison. Et les médecins disent que ça me fait du bien de marcher. Pour mon cœur, vous voyez. Je ressortais avec mon petit caddie. Je n'achète plus grand-chose maintenant. Tout est tellement cher, surtout la viande. Je ne pourrais pas dire quand j'ai mangé du bacon pour la dernière fois. Et c'est là que j'ai vu le petit Peterson.
Inspecteur Anderson. Vous êtes certaine qu'il s'agissait bien de Frank Peterson? Stanhope.
Oh oui, c'était bien Franky. Pauvre petit. C'est affreux ce qui lui est arrivé, mais il vit au paradis maintenant. Il ne souffre plus. C'est une consolation. Il y a 2 Peterson, vous savez, rouquins l'un et l'autre. Oh, cette horrible couleur carotte. Mais l'aîné, Oliver, a au moins 5 ans de plus. Il livrait notre journal dans le temps. Frank, lui, avait un vélo avec un guidon très haut et une selle étroite.
Inspecteur Anderson. On appelle ça une selle banane. Stanhope.
Ah, je ne savais pas. Mais je sais qu'il était vert citron. Une couleur affreuse, vraiment. Et il y avait un autocollant sur la selle, lycée de Flint City. Hélas, il n'ira jamais au lycée, hein? Pauvre petit.
Inspecteur Anderson, voulez-vous faire une courte pause, Madame Stanhope? Stanhope.
Non, je veux en finir. Il faut que je rentre nourrir mon chat. Je lui donne à manger à 15h. Il va avoir faim et il va se demander où je suis passé. Par contre, est-ce que vous auriez un mouchoir en papier? Je ne dois pas être belle à voir. Merci.
Inspecteur Anderson. Vous avez remarqué l'autocollant sur la selle du vélo de Frank Peterson parce que... Stanhope.
Oh, parce qu'il n'était pas assis dessus. Il poussait son vélo sur le parking de chez Gérald. La chaîne était brisée, elle traînait par terre.
Inspecteur Anderson. Avez-vous remarqué comment il était habillé? Stanhope.
Il avait un t-shirt avec le nom d'un groupe de rock, mais je n'y connais rien, alors ne comptez pas sur moi pour vous dire lequel. Si c'est important, je suis désolé. Il portait aussi une casquette des Rangers sur l'arrière du crâne. Je voyais ses cheveux roux. Généralement, tous ces rouquins, ils deviennent vite chauves. Mais il n'aura plus à s'inquiéter pour ça.
Hein? Oh, quelle tristesse!
Bref, il y avait une camionnette blanche et sale au fond du parking. Un homme en est descendu pour s'approcher de Frank. Il...
Inspecteur Anderson, nous y reviendrons plus tard. Parlez-moi de cette camionnette d'abord. C'était un véhicule sans fenêtre sur les côtés? Stanhope.
Oui.
Inspecteur Anderson, pas d'inscription, pas de nom de société, ni rien? Stanhope.
Je n'ai rien remarqué en tout cas.
Inspecteur Anderson. Bien. Maintenant parlons de cet homme que vous avez vu. L'avez-vous reconnu, Madame Stanhope? Stanhope.
Ah oui, bien sûr. C'était Terry Maitland. Tout le monde dans le West Side connaît Coach T. Même les élèves du lycée l'appellent comme ça. Il enseigne l'anglais là-bas. Mon mari a été son collègue avant de prendre sa retraite. On le surnomme Coach T car il entraîne les joueurs de baseball de la Little League et aussi l'équipe locale de la City League. À l'automne, il entraîne les enfants qui aiment jouer au football. Cette ligue a un nom, elle aussi, mais je ne m'en souviens plus.
Inspecteur Anderson. revenons-en à ce que vous avez vu ce mardi après-midi. Stanhope.
Il n'y a pas grand-chose à dire. Frank a parlé avec Coach T et il lui a montré sa chaîne brisée. Coach T a hoché la tête et il a ouvert les portes arrière de la camionnette qui ne pouvait pas être la sienne.
Inspecteur Anderson. Pourquoi dites-vous cela, Madame Stanhope? Stanhope.
Parce qu'elle avait une plaque d'immatriculation orange. Je ne sais pas à quel état ça correspond, et ma vue n'est plus aussi bonne qu'avant, mais je sais que les plaques de l'Oklahoma sont bleues et blancs. Bref, je n'ai pas vu ce qu'il y avait à l'arrière de la camionnette à part une sorte de grand truc vert qui ressemblait à une boîte à outils. C'était bien ça, inspecteur?
Inspecteur Anderson. Et ensuite, que s'est-il passé? Stanhope.
Eh bien, Coach T a déposé le vélo de Frank dans la camionnette et il a refermé les portes. Il a donné une tape dans le dos de Frank. Puis, il a fait le tour de la camionnette pour s'asseoir au volant et Frank a fait le tour de l'autre côté. Ils sont montés à bord tous les deux et la camionnette est repartie dans Mulberry Avenue. J'ai pensé que Coach T allait ramener le gamin chez lui, forcément. Que penser d'autre? Terry Maitland vit dans le West Side depuis 20 ans. Il a une jolie famille, une femme et 2 filles. Je pourrais avoir un autre mouchoir, s'il vous plaît. Merci. On a bientôt fini.
Inspecteur Anderson. Oui, et vous m'avez beaucoup aidé. Avant le début de l'enregistrement, vous m'avez dit, il me semble, qu'il était environ 15 heures. Stanhope.
Très précisément. J'ai entendu la cloche de la mairie sonner juste au moment où je sortais de l'épicerie avec mon caddie. J'étais pressé de rentrer chez moi pour nourrir mon chat.
Inspecteur Anderson. Ce garçon que vous avez vu, le rouquin, c'était Frank Peterson. Stanhope.
Oui, les Peterson habitent juste au coin de la rue. Holly me livrait mon journal dans le temps. Je les vois tout le temps.
Inspecteur Anderson. Et l'homme? Celui qui a déposé le vélo à l'arrière de la camionnette blanche et qui est reparti avec Frank Peterson, c'était Terence Maitland, surnommé Coach Terry ou Coach T. Stanhope.
Oui.
Inspecteur Anderson. Vous en êtes certaine? Stanhope.
Oh, oui.
Inspecteur Anderson. Merci, Madame Stanhope. Stanhope.
Qui aurait pu imaginer que Terry était capable de faire une chose pareille? Vous pensez qu'il avait déjà fait ça?
Inspecteur Anderson, nous le découvrirons peut-être au cours de notre enquête. Cinq. Tous les matchs de la City League se déroulant à Estelbarga Field, le meilleur terrain de baseball de la région et le seul disposant d'un éclairage permettant de disputer des rencontres nocturnes, l'équipe qui débuterait à l'offensive fut décidée à pile ou face. Terry Maitland choisit pile, comme toujours. Une superstition héritée de son propre coach à l'époque. Et la pièce tomba sur pile.
« Je me fiche de savoir où on joue, mais j'aime jouer en dernier », disait-il à ses joueurs.
Et ce soir, il en avait besoin.
C'était la fin de la 9e manche. Les Bears menaient d'un seul point dans cette demi-finale. Les Golden Dragons n'avaient plus qu'un seul retrait. Mais leurs coureurs occupaient les 3 premières bases. 4 lancers jugés hors zone ou 1 lancé dans le champ intérieur et c'était fini. 1 balle en plein centre découvert et c'était gagné. La foule frappait dans ses mains, tapait du pied sur les gradins métalliques et rugissait lorsque le petit Trevor Michaels pénétra dans la zone du frappeur à gauche. On lui avait trouvé le casque le moins large, et malgré cela, il lui tombait devant les yeux. Ce qui l'obligea à le relever sans cesse. Il esquissait des mouvements nerveux avec sa batte. Terry avait envisagé de remplacer Trevor, mais avec son 1,55 m, il provoquait de nombreux buts sur balle quand il était lanceur. Et s'il n'était pas doué pour réaliser des home runs, il réussissait parfois à taper dans la balle. Pas souvent, mais ça arrivait. Si Terry le remplaçait au poste de frappeur, le pauvre gamin devrait vivre avec cette humiliation durant toute l'année prochaine au collège. En revanche, s'il réussissait un coup, un seul, Il en parlerait toute sa vie en buvant une bière autour d'un barbecue. Terry le savait bien. Il avait connu ça il y a bien longtemps, avant l'apparition des battes en aluminium. Le lanceur des Bears, leur joueur vedette, arma son bras et lança une balle en plein milieu du marbre. Trevor la regarda passer d'un air désemparé. L'arbitre annonça le premier strike. La foule gronda. Gavin Frick, l'assistant de Terry, marchait de long en large devant le banc des joueurs. La feuille de score roulait dans son poing. Combien de fois Terry lui avait-il demandé de ne pas faire ça? Et son t-shirt des Golden Dragons taille XXL, tendu par sa bedaine, taille XXXL au moins.
« J'espère que ce n'était pas une erreur de laisser Trevor à la batte, Terre, »
glissa-t-il. La sueur coulait sur ses joues.
« Il est mort de trouille, on dirait. Et je crois que même avec une raquette de tennis, il pourrait pas envoyer les boulets de canon de ce gamin. »«
On va bien voir, » répondit Terry. « J'ai un bon pressentiment. »
Ce n'était pas vrai. Pas vraiment. Le lanceur des Bears balança une autre balle incendiaire. Mais celle-ci atterrit dans la terre, devant le marbre. La foule se leva comme un seul homme lorsque Babir Patel, lancé vers la troisième base, zigzaga à quelques pas de la ligne. Elle se rassit en soupirant lorsque la balle rebondit dans le gant du receveur. Celui-ci se retourna, et Terry déchiffra son expression à travers le masque. « Essaie un peu pour voir, mon gars. » Babir n'essaya pas. Le lancer suivant était plus large, mais Trevor le manqua quand même.
« Sors-le, Fritz !»
brailla un type à la voix de Stentor du haut des gradins, sans doute le père du lanceur, à en juger par la façon dont le gamin tourna vivement la tête dans sa direction.
« Sors-le !»
Trevor n'essaya même pas de renvoyer le lancer suivant, tout proche, trop proche en vérité. Mais l'arbitre jugea la balle bonne, et cette fois ce furent les supporters des Bears qui se lamentèrent. Quelqu'un suggéra que l'arbitre devrait changer de lunettes. Un autre spectateur lui conseilla de prendre un chien d'aveugle. Deux partout maintenant, et Terry avait le sentiment que toute la saison des Dragons reposait sur le prochain lancer. Soit ils affronteraient les Panthers pour le titre de champion et poursuivraient la compétition au niveau de l'État, les matchs retransmis à la télé. Ou bien ils rentreraient à la maison et se retrouveraient une dernière fois dans le jardin des Maitland pour le traditionnel barbecue de fin de saison. Terry se retourna vers Marcy et les filles, toujours assises aux mêmes places, sur des chaises de jardin, derrière la protection du marbre. Ses filles flanquaient son épouse, telles deux ravissants presse-livres. Toutes trois levèrent leurs doigts croisés. Terry répondit par un clin d'œil, un sourire et deux pouces levés, même s'il continuait à éprouver une sorte de malaise. Et pas seulement à cause de la rencontre. Cela faisait un petit moment qu'il ne se sentait pas très bien. Marcy lui rendit son sourire, mais celui-ci vacilla et se transforma en froncement de sourcils. Elle regardait vers la gauche et elle agita le pouce dans cette direction. En se retournant, Terry vit deux policiers en uniforme avancer d'un même pas en suivant le tracé de la troisième base et passer devant Barry Houlihan, qui coachait son équipe à cet endroit.
« Temps mort !»
s'écria l'arbitre, pétrifiant le lanceur des Bears qui avait déjà armé son bras. Trevor Michaels sortit de la zone du frappeur, affichant une expression de soulagement, pensa Terry. La foule s'était tue. Tous les regards étaient braqués sur les deux policiers. L'un d'eux prenait quelque chose dans son dos. L'autre avait la main posée sur la crosse de son arme de service, toujours dans son étui.
« Sortez du terrain !»
braillait l'arbitre.
« Sortez du terrain !»
Troy Ramage et Tom Yates l'ignorèrent. Ils pénétrèrent dans l'abri des joueurs, une installation de fortune qui accueillait un banc, trois paniers d'équipement et un seau de balles d'entraînement sale, et se dirigèrent directement vers Terry. Ramage sortit la paire de menottes glissées dans sa ceinture. Tous les spectateurs la virent, et un murmure composé de deux tiers de confusion et d'un tiers d'excitation parcourut les gradins. « Oh !»«
Hé, vous là-bas !»
s'exclama Gavin en se précipitant vers les deux policiers, manquant de trébucher sur le gant abandonné par Richie Gallant.
« Le match n'est pas terminé !»
Yates le repoussa. Un silence de mort régnait dans les gradins. Les Bears avaient abandonné leur posture défensive crispée et assistaient à la scène les bras ballants. Le receveur quitta son poste pour trottiner vers son lanceur et tous deux demeurèrent côte à côte, à mi-chemin entre le monticule et le marbre. Terry connaissait vaguement le policier qui tenait les menottes. Son frère et lui venaient parfois assister au match à l'automne.
« Troy, Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire?
Ramage ne voyait sur le visage de l'homme qu'un étonnement sincère. Mais il était flic depuis les années 1990. Il savait que les pires criminels maîtrisaient à la perfection l'art du « qui ça, moi ?» Et on ne pouvait pas faire pire que ce type. Repensant aux ordres d'Anderson, et nullement gêné de les appliquer, il haussa la voix afin de se faire entendre de l'ensemble des spectateurs, dont le nombre exact s'élevait à 1588, lirait-on dans le journal du lendemain.
« Terence Maitland, je vous arrête pour le meurtre de Frank Peterson !»
Un autre « oh !» monta des tribunes, plus fort, semblable au vent qui se lève. Terry regarda Ramage en fronçant les sourcils. Il reconnaissait ces mots, des mots simples qui formaient une phrase déclarative compréhensible. Il savait qui était Frank Peterson et ce qui lui était arrivé, mais le sens lui échappait. Aussi put-il juste répondre
« Hein? Vous plaisantez ?»
C'est à ce moment-là que le photographe sportif du Flint City Hall prit sa photo, celle qui paraîtrait en une le lendemain. Terry avait la bouche ouverte, les yeux écarquillés, ses cheveux dépassaient de sous sa casquette des Golden Dragons. Il paraissait à la fois abattu et coupable.
« Qu'est-ce que vous avez dit ? Donnez-moi vos poignets, je vous prie. »
Terry se tourna vers Marcy et ses filles, toujours assises sur leurs chaises de jardin, derrière le grillage. Elles affichaient la même expression de stupéfaction figée. L'horreur viendrait plus tard. Babir Patel quitta la troisième base et se dirigea vers l'abri des joueurs en ôtant son casque, dévoilant ses cheveux noirs emmêlés et collés par la sueur. Terry remarqua qu'il commençait à pleurer.
« Hé ! Reviens ici !»
lui cria Gavin.
« Le match n'est pas terminé !»
Mais Babir demeura hors du champ. Il regardait Terry et pleurait toutes les larmes de son corps. Terry le regardait lui aussi. Certain, presque certain, qu'il s'agissait d'un mauvais rêve. Puis Tom Yates lui prit les bras pour l'obliger à tendre les mains devant lui, si violemment que Terry trébucha. Ramage referma les menottes autour de ses poignets. De vraies menottes, pas des bracelets en plastique. Grosses et lourdes, scintillantes dans le soleil déclinant. De la même voix retentissante, il déclara
« Vous avez le droit de garder le silence et de refuser de répondre aux questions. Mais si vous décidez de parler, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit de vous faire assister d'un avocat durant les interrogatoires, maintenant et plus tard. Avez-vous compris ?»«
Troy !»
Terry entendait à peine sa propre voix. Il avait l'impression qu'un coup de poing lui avait coupé la respiration.
« Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui se passe ?»
Ramage l'ignora.
« Avez-vous compris ?»
Marcy s'approcha du grillage, glissa les doigts entre les mailles et le secoua. Derrière elle, Sarah et Grace pleuraient. Cette dernière était agenouillée à côté de la chaise de sa sœur. La sienne, renversée, gisait dans la terre.
« Qu'est-ce que vous faites ?»
hurla Marcy.
« Qu'est-ce que vous faites pour l'amour du ciel et pourquoi ici ?»«
Avez-vous compris ?»
répéta Ramage. Ce que Terry comprenait, c'était qu'on lui avait passé les menottes et qu'on lui lisait ses droits, devant plus de 1500 personnes, parmi lesquelles sa femme et ses deux filles. Ce n'était pas un mauvais rêve, ni une simple arrestation. C'était, pour des raisons qui lui échappaient, une humiliation publique. Mieux valait en finir au plus vite et régler ce malentendu. Néanmoins, malgré le choc et l'hébétude, il devinait qu'il ne retrouverait pas une vie normale avant longtemps.
« Oui, j'ai compris, » dit-il. Puis,
« Coach Frick, reculez !»
Gavin avançait vers les deux policiers, poings serrés. Son visage adipeux était écarlate. Il baissa les bras et s'arrêta. Il regarda Marcy à travers le grillage, haussa ses énormes épaules et écarta ses mains potelées en signe de perplexité. De la même voix puissante, tel un crieur public annonçant les grandes nouvelles de la semaine sur une place de Nouvelle-Angleterre, Troy Ramage reprit son laus. Ralph Anderson l'entendait de là où il se trouvait, sur le parking, adossé à la voiture banalisée. Troy faisait du bon boulot. C'était moche. Et Ralph songeait qu'il se ferait peut-être réprimander par sa hiérarchie, mais pas par les parents de Frankie Peterson. Non, certainement pas.
« Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un avocat, Nous vous en fournirons un avant tout interrogatoire, si vous le souhaitez. Vous comprenez ?
Oui, répondit Terry. Et je comprends autre chose également. Il se tourna vers la foule.
Je ne sais pas pourquoi on m'arrête. Gavin Frick va finir de coacher cette partie.
Puis il ajouta
« Bébir, retourne sur ta base et n'oublie pas de courir à l'extérieur du champ. »
Il y eut quelques applaudissements, très disséminés. Dans les gradins, l'homme à la voix de Stentor brailla
« Pourquoi vous l'arrêtez, avez-vous dit ?»
En réponse à cette question, la foule se mit à murmurer les deux mots qui allaient bientôt se répandre dans tout le West Side et le reste de la ville. Frank Peterson. Yates agrippa Terry par le bras et le poussa en direction de la buvette et du parking, au-delà.
« Vous prêcherez devant la multitude plus tard, Maitland. Pour l'instant, direction la prison. Et vous savez quoi ? On a la piqûre dans cet état, et on s'en sert. Mais vous êtes prof, hein ? Alors, vous le savez sûrement. »
Ils avaient fait une vingtaine de pas lorsque Marcy Maitland les rattrapa et saisit Tom Yates par le bras.
« À quoi vous jouez, nom d'un chien ?»
Yates se libéra d'un mouvement d'épaule, et quand Marcy voulut s'accrocher au bras de son mari, Troy Ramage la repoussa, en douceur, mais fermement. Elle demeura plantée là, sonnée. Puis elle vit Ralph Anderson marcher à la rencontre de ses hommes. Elle le connaissait par le biais de la Little League, à l'époque où Derek Anderson jouait dans l'équipe de Terry, les Lions de l'épicerie fine Gerald. Ralph ne pouvait pas assister à tous les matchs, évidemment, mais il venait le plus souvent possible. À cette époque, il portait encore l'uniforme. Quand il avait été nommé inspecteur, Terry lui avait envoyé un mail de félicitations. Marcy se précipita vers lui, foulant l'herbe avec sa vieille tennis, qu'elle mettait toujours pour assister aux matchs de Terry, car elle portait chance, disait-elle.
« Ralph, que se passe-t-il ? C'est une erreur ! » !»«
J'ai peur que non, » répondit l'inspecteur. Il redoutait cet instant, car il aimait bien Marcy. D'un autre côté, il avait toujours bien aimé Terry également. Cet homme avait sans doute changé la vie de Derek, ne serait-ce qu'un peu, en lui apprenant à avoir confiance en lui. Quand vous aviez 11 ans, une petite dose de confiance supplémentaire, c'était énorme. Et puis, il y avait autre chose, se disait-il. Marcy savait peut-être qui était son mari, même si elle refusait de l'admettre consciemment. Les Maitland étaient mariés depuis longtemps, et une horreur telle que le meurtre du petit Peterson ne surgissait pas de nulle part. Derrière, il y avait toujours un long processus.
« Rentrez chez vous, Marcy, maintenant. Et je vous conseille de déposer les fiches chez des amis, car la police vous attend là-bas. »
Elle se contenta de le regarder, sans rien dire, sans comprendre. Dans son dos, elle entendit le bruit métallique d'une batte qui frappe une balle de plein fouet. Un joli coup qui provoqua peu d'applaudissements. Les spectateurs, encore sous le choc, s'intéressaient davantage à ce qui venait de se passer qu'à la partie qui avait repris. Et c'était bien dommage, car Trevor Michaels n'avait jamais tapé aussi fort dans la balle, plus fort même que lorsque Coach T envoyait des balles faciles à l'entraînement. Hélas, celle-ci fila droit sur l'arrêt-court de Bears, qui n'eut même pas besoin de sauter pour l'attraper. Game over.